Sud Radio, ça roule.
Bonjour Pierre, c'est une tendance qui se confirme malheureusement. Les ventes de véhicules neufs sont en chute libre de 20%, tandis que dans le même temps, les prix du marché de l'occasion augmentent.
Oui, c'est vrai, le marché du véhicule d'occasion est très clairement en train d'exploser pendant que le marché du véhicule neuf est lui au ralenti. Alors en cause, eh bien des Français qui ne savent plus vers quelle motorisation se tourner, notamment pour l'achat d'un véhicule neuf, et puis des prix de véhicules neufs toujours plus chers. Rendez-vous compte, il y a encore une vingtaine d'années, 7% des Français changeaient de véhicule neuf tous les ans. Aujourd'hui, cette proportion n'est plus que de 2% chaque année. C'est à la baisse. On achète de moins en moins de véhicules neufs, mais par contre, le marché du véhicule d'occasion mécaniquement est en demande. Et qu'est-ce que font les prix ? Eh bien, ils augmentent.
Alors justement, côté tarif, ça donne quoi précisément, Pierre ?
Allez, on va commencer par les véhicules électriques. Eh bien, les véhicules électriques, ils sont en augmentation sur le marché de l'occasion. Une augmentation de 2,8%, c'est-à-dire quasiment deux fois l'inflation. Prenons aussi le diesel. Et là, on pourrait se dire, bah tiens, avec toutes les mesures anti-voiture, les gens, les Français vont acheter de moins en moins de diesel. Que nenni, bien au contraire, les véhicules diesel sur les prix sont en augmentation de 5,5%. Ils sont même de plus en plus demandés parce que dans les campagnes, eh bien, ça reste, quoi qu'il arrive, très économique de rouler au diesel.
Bah oui, forcément. Merci beaucoup, Pierre Chasseret. 6h17, tout de suite, on parle emploi sur Sud Radio. Et c'est reparti pour un nouveau coup de main pour l'emploi avec vous, Jérôme Laverny. Bonjour Jérôme.
Bonjour Benjamin.
Alors la semaine dernière, on parlait du domaine de la sécurité. On était dans un centre de formation spécialisé dans la sécurité. Aujourd'hui, on va cette fois-ci dans une entreprise, dans la sécurité et dans la sûreté.
Et la sûreté, oui, tout à fait, avec les précisions qu'il va falloir établir, qui à mon avis sont loin d'être présentes à l'esprit de nos auditeurs.
Et ben voilà, justement, ça sera peut-être notre première question avec vous, Isabelle Bertrand. Bonjour.
Bonjour.
Directrice administrative et commerciale de DMH Security. Déjà, la différence, voilà, très rapidement, entre sûreté et sécurité, c'est quoi la différence ?
Alors, il y en a une, effectivement. La sécurité, c'est plus général sur le secteur national. C'est sur tout type d'établissement, on va dire. Mmh. Et la sûreté, c'est plus généralement sur l'aéroportuaire, pour faire simple.
Mmh. Voilà. Et justement, vous concernant, vous cherchez à recruter alors plus spécifiquement dans la sûreté, c'est ça ?
Alors, on a effectivement, j'ai deux types d'annonces en ce moment. Je recherche pour notre entreprise, notre groupe, qui est dans le domaine de la sécurité, qui recherche des personnes en alternance. Donc, nous nous occupons de toute la partie présélection des candidats, puis formation, et ensuite intégration sur des contrats de professionnalisation sur de futurs agents de sécurité. Sur le territoire donc de l'Île-de-France. Et ouais, nous recherchons parallèlement à cela pour une entreprise de prestataire sur l'aéroport, sur la sûreté aéroportuaire, qui recherche de nouvelles personnes qui souhaitent travailler dans ce milieu. Et donc nous faisons la même opération, la présélection des candidats, suivi de la formation et de l'intégration ensuite sur la période de contrat de professionnalisation sur l'été prochain pour Orly.
Jérôme Laverny.
Quels sont les intérêts pour un candidat de se porter sur ces métiers-là ? J'entends à la fois de la sûreté et de la sécurité. Est-ce qu'il y a des possibilités d'évolution, des postes de travail sur un certain nombre de sites en France et pas exclusivement sur telle ou telle agglomération ? Quels sont les avantages pour un candidat d'imaginer de se porter sur cette profession ?
Alors, les avantages, déjà, c'est d'avoir une formation diplômante, qualifiante ou certifiante. Voilà. La deuxième chose, c'est faire partie donc de l'alternance, pouvoir et être formé, avoir un diplôme et pouvoir parallèlement mettre un premier pied sur le métier, soit d'agent de sûreté, soit d'agent de sécurité. Et puis pour pouvoir, à l'issue de cette formation et de cette période d'activité, pouvoir acquérir soit un contrat en CDD, soit en CDI, ou pouvoir se dire pourquoi pas, ce métier-là effectivement ne correspond pas tout à fait à mes attentes, je vais m'orienter sur autre chose.
Alors une petite observation très importante pour nos auditeurs, parce qu'un certain nombre de personnes parfois prennent l'initiative d'aller contacter des centres de formation, font établir des devis, les soumettent au Pôle emploi ou à tout autre organisme susceptible de financer. Lorsqu'en réalité, l'autre avantage d'un contrat de professionnalisation, c'est que, indépendamment d'avoir un contrat de travail, donc de continuer à être rémunéré, évidemment, la formation est complètement gratuite et parfois agrémentée de choses complémentaires qui sont très précieuses dans la construction de carrière.
Oui, tout à fait, parce que au départ, on travaille sur ces dispositifs-là aussi avec le Pôle emploi, bien évidemment, pour les demandeurs d'emploi qui ne savent pas sur quelle formation s'orienter. Mais là, l'avantage pour les candidats, c'est que c'est les entreprises qui font appel à nous via un dispositif de financement qu'ils ont réussi à obtenir, et ce qui va permettre aux demandeurs d'emploi d'avoir sa formation effectivement de financer. Donc non seulement il n'a rien à débourser, mais en plus derrière, il aura un contrat de travail avec une entreprise.
Mmh. Isabelle Bertrand, quel profil vous attendez de la part justement des candidats qui vont frapper à la porte de DMH Security ?
Alors, sur la partie sécurité, bah, c'est d'avoir déjà au moins 5 ans d'activité de présence sur le territoire français pour les agents de sécurité. Mmh. C'est un prérequis obligatoire. Avoir bien évidemment 18 ans. Mmh. Et puis, c'est tout pour la partie sécurité. Sur la partie sûreté, tout simplement être de nationalité européenne, avoir un casier judiciaire vierge et avoir envie d'avoir du contact, on va dire, avec le public.
Et ben voilà, direction DMH Security. Merci beaucoup Isabelle Bertrand. Je rappelle, vous êtes donc directrice administrative et commerciale de DMH Security. Je vous souhaite une très belle journée.
Merci beaucoup.
Merci à vous et à bientôt sur Sud Radio. Merci également à vous, Jérôme Lavernier. On se retrouve demain pour un nouveau coup de main pour l'emploi. À demain.
À demain, Benjamin.
Le Grand Matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise.
6h22, excellent réveil avec Sud Radio, c'est le petit matin. Oui, aujourd'hui nous sommes le mercredi 6 octobre, c'est la Saint-Bruno. Bonne fête donc à tous les Bruno qui nous écoutent, et puis souhaitons également un joyeux anniversaire à ceux qui sont nés un 6 octobre. C'est d'ailleurs à cette date que fut ouvert le plus célèbre des cabarets du monde. Bah oui, le French Cancan, c'est pas mal pour se réveiller, hein, vous pouvez tenter. Hein. Alors dans la salle de bain, faites attention quand même. En tout cas, dans ce mythique forcément du Moulin Rouge, le cabaret parisien ouvert le 6 octobre 1889 à Montmartre, le French Cancan. L'histoire raconte que l'on doit ce nom à un Anglais qui l'a appelé ainsi car cette danse venait de France, bien sûr, et qu'elle faisait beaucoup de bruit aussi. Or à l'époque, le Cancan, c'est un mot français utilisé pour parler, je cite, « d'un grand bruit fait autour d'une chose qui n'en vaut pas la peine ». Voilà qui dit, en tout cas, le French Cancan, lui, continue de faire fureur au Moulin Rouge. Allez, un tout autre anniversaire. Aujourd'hui, c'est la date de naissance du Corbusier, le père de l'architecture moderne, qui était né, lui, le 6 octobre 1896. On lui donne notamment la Cité Radieuse à Nantes, celle de Marseille, bien sûr, ou encore le couvent Sainte-Marie de la Tourette à Évreux. Pour autant, bah, c'était pas quelqu'un de prétentieux pour un sou, ce Corbusier. Écoutez ce qu'il répondait à ce qu'il présentait comme un précurseur. Interview diffusée à la télé en 1962. Nous étions 3 ans avant sa disparition.
Ceux qu'on appelle les précurseurs comme si c'était un titre de gloire, et c'est généralement un certificat de coup de pied au derrière pendant 40 années, n'est-ce pas ? Eh bien, ce titre de précurseur, ça veut simplement dire qu'il s'agit d'hommes qui ont l'œil ouvert, qui regardent. Hein, et moi, je n'ai comme seule étude que celle-ci, c'est que je ne suis pas encore entré à l'école et que je pense ne pas y entrer jamais. Je regarde, les portes sont ouvertes devant moi. Tous les jours, c'est nouveau, tout est nouveau à apprendre.
Bah oui, le certificat de coup de pied dans le derrière, comme il disait pour parler des études, le Corbusier de son vrai nom, Charles-Édouard Jeanneret. Allez, de la musique, pour finir avec cette autre date de naissance, celle d'un chanteur à la voix caverneuse au possible. Il aurait eu 72 ans aujourd'hui.
She's crazy like a fool.
Bobby Farrell, le chanteur et danseur survolté, bah oui, on s'en souvient du groupe Boney M, un groupe qui a été un véritable phénomène en Europe, mais qui n'aura jamais finalement réussi à percer aux États-Unis. C'est pas pour rien, puisque Boney M est l'un des rares, très rares groupes à avoir joué en Union soviétique en pleine guerre froide. Ceci explique donc sans doute cela. Allez, 6h25 à suivre dans votre petit matin. La météo, vos infos et la vie en vrai. Vos coups de gueule, vos coups de cœur au 0826-300-300. Excellent réveil à tous, à tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Sud Radio. Parlons vrai.
Parlons vrai.
Et le tiercé, quarté et quinté plus avec Jean-Paul Delperrier. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour Benjamin, bonjour à tous.
Aujourd'hui, vos préférés, on prend la direction de l'hippodrome d'Angers.
Avec le prix Anjoumène, une épreuve longue de 3125 mètres. Ils seront 16 concurrents dans la réunion 1 course 4. Le 16 King Game sera ma base et sera certainement le favori de la France entière devant le 14 Clark Soto, 12 Ammoni OSM, 5 Fair Play d'Urzy, 8 Carnaval du Vivier, 4 Wool Lotalove, 9 Flèche du Yuka et 7 Golden Bridge. 16, 14, 12, 5, 8, 4, 9 et 7. En sélection du jour à Pornichet-Labo, alors réunion 3, course 5, je vous conseille le 12 Oxiana.
Merci beaucoup Jean-Paul Delperrier, vos pronostics sur sudradio.fr.
La météo Sud Radio
avec mistermenuiserie.com, le numéro 1 du portail motorisé, à retrouver dans l'un de nos 150 magasins et sur mistermenuiserie.com.
Bonjour Rémi André.
Bonjour Benjamin, bonjour tout le monde.
Bon, c'est une journée entre la pluie hier et le beau temps demain.
Oui, effectivement, une journée de transition, on va dire, avec encore pas mal de nuages, des nuages dans le sud-ouest ce matin, mais une grande partie va se dissiper, ces nuages resteront tout de même accrochés une bonne partie de la journée aux Pyrénées. Nous avons également pas mal de nuages depuis le Massif central jusqu'au nord-est, cela laisse encore échapper là aussi quelques ondées, mais cela va se calmer dans l'après-midi, on gardera des averses tout de même sur le Grand Est. Et puis sur les bords de la Méditerranée, là, eh bien, ce sera du soleil évidemment, mais avec Mistral et Tramontane qui se renforcent, le tout avec des températures de saison ne dépassant pas les 17 degrés à Paris comme à Limoges, jusqu'à 19 degrés à Toulouse, 20 degrés à Marseille et Bordeaux.
Merci à vous Rémi André. Très bon réveil avec Sud Radio, ravi de vous accompagner en ce début de journée, il est 6h30. Sud
Radio. Parlons. Vrai.
Et le journal vous est présenté par Mathieu Bélissario. Bonjour Mathieu.
Bonjour, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, une marée noire de déchets à Marseille. Des centaines de poubelles se sont déversées dans la mer depuis lundi, conséquence des fortes pluies et de la grève des éboueurs. Colère des associations de défense de l'environnement, vous les entendrez. Le chiffre est vertigineux, 240 000 employés de moins en un an dans la restauration. Les professionnels du secteur ont fait des propositions pour attirer les candidats, on verra lesquels. Et puis c'est l'événement cinéma du jour, la sortie du nouveau James Bond, Mourir peut attendre, un 25e épisode très attendu. Alors, réussi ou pas ? Réponse à la fin de ce journal. On commence ce journal avec la colère des Marseillais. Après la grève des éboueurs, plusieurs tonnes de déchets se sont accumulées pendant une semaine dans la cité phocéenne. Oui, mais voilà, avec les très fortes précipitations de ces derniers jours, eh bien, toutes ces ordures, ces sacs poubelles, se sont déversées dans les rues de la ville. Et pire, ils se retrouvent désormais dans la mer, ce qui laisse présager une importante pollution maritime. Écoutez Isabelle Poitou, directrice de l'association Mer Terre.
On a des arrivages importants de déchets d'emballage, de boissons, beaucoup, de plastique, des pneus, il y a du bois, des feuilles, il y a des branchages, donc on sent bien que c'est le lessivage de l'Uvonne hein, qui amène ces déchets. On avait encore beaucoup d'eau polluée, on voyait bien le panache hein, en mer. Le Mistral des deux jours prochains va contribuer aux échouages. Donc je pense qu'il faut revenir sur les plages demain et après-demain pour nettoyer ce que la mer aura rapporté. Donc c'est effectivement un gros apport massif sur un temps très court. Et ça, oui, c'est une pollution.
Et des propos recueillis par Boris Karlamov. Dans l'actualité également, le pape François fait part de son immense chagrin après les révélations du rapport Sauvé. 330 000 personnes ont été victimes de pédophilie au sein de l'Église catholique française depuis 1950. Une effroyable réalité pour le souverain pontife qui apporte son soutien aux victimes. Elles attendent désormais une réparation financière. La loi contre les thérapies de conversion adoptée à l'unanimité cette nuit à l'Assemblée nationale. Le texte adopté en première lecture prévoit une infraction spécifique contre ceux des médecins, notamment qui prétendent guérir les homosexuels ou personnes transgenres. Un délit puni désormais de 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Éric Dupond-Moretti reconnaît une faille après la prise d'otage hier à la prison de Condé-sur-Sarthe. Le ministre de la Justice, invité hier soir de BFM TV, précise qu'il laisse aux enquêteurs le soin de faire toute la lumière sur cet événement. Le détenu, connu pour son extrême dangerosité, a retenu 2 surveillants pendant plusieurs heures. L'un d'eux a été blessé à l'œil. Le prisonnier s'est finalement rendu quelques heures plus tard. Une enquête est en cours. C'est un véritable casse-tête pour le secteur de l'hôtellerie-restauration, un secteur qui fait face à de très grosses difficultés de recrutement depuis la reprise de l'activité. Le gouvernement presse les professionnels d'améliorer les conditions de salariales notamment. Résultat, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie a dévoilé ses propositions. Objectif, rendre le milieu plus attractif. Mais alors, concrètement, que propose l'UMI ? Écoutez Franck Delvaux, président de l'UMI Paris-Île-de-France.
Ses propositions, c'est déjà de revoir notre grille, nos niveaux et les échelons, puisque de toute façon, il y a eu un rattrapage par l'augmentation du SMIG au 1er octobre. Donc notre grille est obsolète. Et évidemment, il est hors de question qu'on rémunère nos salariés en deçà du SMIG. Donc, c'est une revalorisation de notre grille de salaire. Après, il y a aussi d'autres sources de réflexion, comme par exemple, vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes obligés de nourrir nos employés. C'est une loi. Nous, on propose de supprimer cette loi et de le remplacer par des titres restaurants, parce qu'on a de plus en plus de jeunes dans nos établissements. Certains préfèrent, dès que le service est terminé, rentrer chez eux. Et je pense que ça pourrait être un avantage non négligeable pour nos équipes.
Et des propositions qui doivent permettre à terme de recruter plus de main-d'œuvre dans la restauration, un secteur qui a perdu 240 000 employés en un an, selon le ministère du Travail. Le coup d'envoi des cérémonies d'hommage à Bernard Tapie, une messe à la mémoire de l'homme d'affaires est prévue ce matin à 11h en l'église de Saint-Germain-des-Prés à Paris. Demain, son cercueil sera exposé dans un salon du Stade Vélodrome à Marseille avant ses obsèques vendredi dans la cité phocéenne. Et puis c'est l'événement cinéma du jour, la sortie du nouveau James Bond, Mourir peut attendre, le titre de ce 25e épisode de la saga, le dernier incarné par Daniel Craig qui va ensuite ranger son costume d'agent secret. Reporté plusieurs fois en raison de la crise sanitaire, le film est évidemment très attendu. Dès hier, les avant-premières organisées un peu partout en France ont fait le plein. Alors que vaut ce nouveau James Bond? Réponse avec Laurent Perriot, cofondateur du club James Bond France.
C'est un film un peu à part dans la saga parce qu'il y a beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions dans ce film avec un final assez incroyable que je ne vous spoilerai pas. Et du coup, c'est très, très, très déroutant. Néanmoins, c'est un bon film. Il y a la bonne dose d'ingrédients qu'on est en droit d'attendre d'un James Bond, des cascades, des gadgets, de l'action, des beaux paysages. Et puis, dans le film, cette césure où on part vers quelque chose de beaucoup plus humain, de peut-être un peu torturé. Et voilà, il faut vraiment aller le voir.
Voilà, Mourir peut attendre, le dernier James Bond à voir aujourd'hui en salle. C'est la fin de ce journal. Belle matinée sur Sud Radio.
Merci à vous, Mathieu Bélisario.
Le Grand Matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise.
Bah oui, très bon réveil avec le Petit Matin de Sud Radio. Le Petit Matin de Sud Radio qui deviendra le Grand Matin dans un petit quart d'heure. Maintenant avec Cécile Le Minibus et Patrick Roger qui nous rejoindront. Et d'ici là, curieux comme Rémi, avec Rémi André, on fera le bilan de ce mois de septembre. Plus chaud que d'habitude, plus orageux aussi. On fera aussi le point sur ce qui buzz sur les réseaux sociaux avec cette nouvelle mesure d'Anne Hidalgo, candidate socialiste à la présidentielle dans Libération. Ce matin, elle veut baisser les taxes qui pèsent sur le carburant. On verra, les réactions sont nombreuses sur les réseaux sociaux. Mais d'abord, c'est la vie en vrai sur Sud Radio. Bon réveil à tous.
Le Grand Matin Sud Radio. La vie en vrai.
Vos coups de cœur, vos coups de gueule, comme tous les jours au 0826 300 300. Ce matin, on accueille André qui nous appelle d'Albi. Bonjour André.
Bonjour, bonjour.
Alors vous êtes professeur de sport, c'est ça ?
Professeur d'éducation physique et sportive.
D'EPS, exactement. Voilà. D'éducation physique et sportive. Et je crois que c'était un coup de gueule que vous vouliez faire ce matin.
C'est-à-dire qu'on a eu une restriction, là, quand je vous ai entendu la semaine dernière parler du fait que le pass sanitaire n'était pas obligatoire à l'école, j'ai voulu réagir parce qu'en fait, lorsque les professeurs d'EPS sont sur des installations sportives en présence d'autres usagers, et notamment ça se concerne les piscines, on avait l'obligation du pass sanitaire. Donc voilà, j'avais envie de réagir par rapport à ça, parce qu'en fait, on a l'enseignement de la natation qui pour moi est fondamental. Hein. On voit bien tout ce qui se passe l'été au niveau du nombre de noyades, etc.
Et vous n'êtes pas le seul à le dire. D'ailleurs, la ministre des Sports, hein, Roxana Maracineanu, en avait fait une priorité aussi pour elle.
Voilà, sauf qu'il y a des municipalités qui privilégient le public, c'est-à-dire les adultes pour leurs loisirs, au détriment des élèves, puisque moi, par exemple, j'ai des élèves qui n'ont pas le pass sanitaire et j'aurais pas pu amener ma classe à la piscine à partir du 30 septembre, par exemple.
C'est-à-dire, plus de 12 ans. C'est-à-dire, André, si je vous comprends bien, c'est que la piscine a fait le choix en question là de pas réserver de créneaux pour vos élèves, et du coup, forcément. Ils sont obligés de présenter un pass sanitaire, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. Et de fait, on ne peut plus les amener puisque on va pas laisser une partie de nos élèves au lycée ou au collège et emmener l'autre partie nager. Donc c'est pas possible, ça c'est de la discrimination et ça c'est pas acceptable. Voilà.
Mais quelle solution vous avez trouvée ? Vous en avez parlé donc j'imagine du côté de la piscine pour essayer d'avoir des créneaux, ça n'a pas fonctionné. Vous avez d'autres solutions ?
On en a parlé avec les responsables de la piscine, bien entendu, qui n'ont pas voulu bouger leur planning, on va dire, hein, voilà, la solution aujourd'hui, c'est qu'on a un décret qui est sorti juste la semaine dernière, qui autorise maintenant l'enseignement sans passe sanitaire, je dirais, dans quelques départements qui n'ont pas
les fameux 47 départements, voilà.
Sauf que, alors moi, je suis bien dans le Tarn puisque on fait partie de ces départements qui peuvent maintenant se passer du pass. Mais je sais que par exemple, Et dans l'académie, il y a également quatre départements. Je parle de l'académie Midi-Pyrénées. Hein. Il y a quatre départements qui sont toujours concernés quoi, par cette mesure. Quoi.
Voilà. Et vous, du coup, ça veut dire que ça va faciliter les choses d'être dans ces 47 départements où le virus circule le moins. Ça va permettre quand même de faire bouger les choses ou pas?
Ah ben oui, ça a levé cette restriction.
D'accord. C'est-à-dire okay.
Là, par exemple, ce matin, vous voyez, j'ai un cours de 10 à 12 et je vais pouvoir y aller, alors que s'il n'y avait pas eu ce décret, je serais resté dans mon établissement.
Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, André Dalby, et bonne piscine du coup tout à l'heure avec les élèves.
Merci voilà. Beaucoup.
Et on pense bien sûr aux autres départements qui n'ont pas pu bénéficier justement de cette mesure. Merci à vous André. Allez, à 6h40, Curieux comme Rémi, tout de suite avec Rémi André.
Sud Radio, Curieux comme Rémi, Rémi André.
Et curieux comme Rémi, et curieux comme un mois de septembre chaud et orageux. Oui, car après un mois d'août exécrable, je crois qu'on peut le dire, le mois de septembre, plus chaud que la moyenne, a fortement arrosé d'orages les régions du sud tout particulièrement. Rémi, quel bilan on peut tirer de ce mois de septembre?
Bien écoutez, septembre 2021 a été marqué par un temps très chaud durant la première quinzaine et par de nombreux épisodes pluvio-orageux très intenses, voire parfois exceptionnels, avec des pluies diluviennes dans le sud-ouest, le 8 sur la région d'Agen, puis dans le Gard, le 14 au matin dans la région de Nîmes. En restant optimiste, on pourrait le résumer d'une autre manière. Après un été bien arrosé, avec plusieurs périodes de temps frais, nuageux et humide, le mois de septembre a été assez agréable, avec des températures élevées pour la saison et des journées bien ensoleillées. Alors tout ça, sans oublier évidemment que de fortes dégradations pluvio-orageuses ont tout de même concerné certaines régions du centre et du sud du pays.
Bien sûr, c'est donc au niveau des températures que l'été s'est finalement rattrapé en septembre?
Oui, avec un excédent de 2 degrés en moyenne sur la France. Je vous rappelle que le mois d'août, on en avait parlé, était inférieur de 0,5 degré. Et bien là, on est à 2 degrés au-dessus. Ce mois de septembre 2021 se situerait donc en quatrième position des mois de septembre les plus chauds depuis 1960. C'est le quatrième mois de septembre consécutif où les températures sont excédentaires. Le dernier mois de septembre, un peu frais, datant de 2017. Le 7 septembre, des records mensuels de chaleur ont même été battus dans l'Ouest avec 31 degrés à Quimper et plus de 34 degrés à La Rochelle.
Oui, ça fait pas mal. Et alors avec cette chaleur, Rémi, vous l'avez dit, les orages ont donc été plus violents encore.
Oui, en effet, il a beaucoup plu sur l'ouest de la Bourgogne, l'Orléanais, le Berry, le nord de l'Auvergne. Plus au sud, les précipitations sont très hétérogènes avec localement de fortes pluies orageuses. Agen a donc connu un orage diluvien le 8 septembre avec un record de pluie en 24 heures qui a été pulvérisé. Sur l'ensemble du mois, il a été observé 205 mm, un record absolu de précipitations. À noter aussi des épisodes de pluie orageuse très intenses dans le Gard, le 14 et le 26 septembre, avec 244 mm de pluie tombée en 3 heures seulement, le 14 dans le sud-ouest du Gard. Jamais on n'avait connu d'ailleurs une telle intensité dans ce secteur avec des crues et des inondations éclairs.
Ouais, bon, malgré les orages, le soleil nous a quand même enfin accordé un peu d'été, Rémi.
Oui, en effet, malgré quelques périodes de temps perturbées, les conditions météo ont été globalement agréables en ce mois de septembre, avec de belles journées ensoleillées et un ensoleillement souvent excédentaire de 10 à 30% sur la moitié nord du pays. Au sud, l'ensoleillement était plus proche des normales de saison, avec même un léger déficit au sud de la Garonne et près du golfe du Lion.
Bon, en tout cas, la météo qui s'améliore, vous nous le direz hein, pour la journée, en tout cas pour demain et les prochains jours. Merci à vous, Rémi. André, 6h43 sur Sud Radio, dans quelques minutes maintenant. 7 minutes très précisément. Ouh, attention, vous mettez votre chrono, c'est parti. C'est Cécile Vidébus, c'est Patrick Roger qui nous rejoindront. Mais d'abord, hashtag, on en parle. On parlera en l'occurrence de la toute dernière proposition d'Anne Hidalgo, la candidate socialiste à la présidentielle en difficulté dans les sondages. Bah, elle tente le tout pour le tout dans une interview accordée dans Libération. On en parle dans un instant. A tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons
vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai. Le Grand Matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise.
6h47, c'est le rappel, les titres sur Sud Radio. L'Église sous le choc au lendemain des révélations du rapport Sauvé. 330 000 victimes de pédophilie au sein des institutions catholiques françaises depuis 1950. Le pape François a dénoncé hier l'effroyable réalité, faisant part de son immense chagrin. Pour sa part, le président de la Conférence des évêques de France parle, lui, de honte, d'effroi et demande pardon à toutes les victimes. Après le bouclier tarifaire annoncé la semaine dernière, le Premier ministre Jean Castex se dit prêt à réduire les taxes spécifiques sur le gaz pour toute l'année 2022 si les tarifs ne baissent pas au printemps. Et puis le 25e volet de la saga James Bond arrive, lui, dans les salles ce mercredi, opus baptisé Mourir peut attendre. C'est la dernière fois que vous verrez Daniel Craig dans le costume de l'agent 007. Et dans hashtag on en parle, elle n'est pas au top dans les sondages en vue du premier tour de la présidentielle. Je parle d'Anne Hidalgo, 3,5% seulement selon le baromètre IFOP fiduciaire publié lundi. Alors la candidate socialiste contre-attaque, gros entretien accordé ce matin dans les colonnes de Libération avec cette proposition choc, celle de baisser les taxes sur les primes des carburants. Ah oui, ça va y aller, ça, oui, baisse des taxes sur le prix des carburants, ça va y aller. Bon, ça peut sembler quand même surprenant pour celle qui est souvent considérée comme la plus verte des socialistes. En tout cas, ça provoque une flopée de commentaires acerbes sur les réseaux sociaux. Tenez, celui-ci par exemple. Donc, Madame Hidalgo, je cite, propose de faciliter l'achat d'essence par des pauvres que la ville de Paris empêchera de circuler. C'est peut-être pour leur laisser assez d'argent pour payer les 72 euros de stationnement par jour. Voilà, commentaire, vous l'aurez compris, plein d'ironie. Mais alors, pourquoi fait-elle cette annonce, la maire de Paris ? Bien, elle explique dans Libé ce matin, la transition écologique ne se fera pas contre les plus fragiles. Et d'ajouter, 11 millions de personnes ont besoin de leur voiture tous les jours pour aller travailler. Il faut les accompagner pour tourner la page des véhicules thermiques à partir de 2030. Alors comment ? Notamment en développant les transports en commun ou en rouvrant certaines petites lignes ferroviaires. Une mesure en tout cas qui lui permet de se différencier du candidat écolo Yannick Jadot au-dessus d'elle dans les sondages. Elle ne s'en cache pas d'ailleurs. C'est sans doute une différence avec les Verts, dit-elle dans Libération. Hidalgo qui n'annonce pas cette mesure sans un brin, un soupçon d'intérêt peut-être, sans doute, électoraliste. Allez, eux, ils n'ont rien à vous vendre. Mais ils sont là, c'est Patrick Roger, Cécile de Minibus.
Le Grand Matin Sud Radio 5h-10h, Patrick Roger, Cécile de Minibus.
Bonjour.
Bonjour, mais qu'est-ce que
Monsieur,
vous en savez ?
Évidemment, peut-être.
Bon, attendez,
moi, j'ai une voiture à vendre. j'ai de l'amour à vendre.
Oui, voilà ce que j'ai à vendre. Écoutez bien.
C'est son côté agent secret, Patrick.
Hello, it's Patrick.
It's a Patrick Roger. 007.
007. Oui, Cécile.
Oui. Je suis qui, moi ? Je suis qui ? Est-ce que je suis la James Bond girl. Ah, je suis une James
Bond
girl.
Oui, sauf que aujourd'hui, on ne pourrait peut-être plus faire exactement ça, même si dans le prochain film, il y a encore une James Bond girl, mais ça ne correspond plus à notre époque.
On était
sur le générique historique parce que la bande-annonce du nouveau, c'est plutôt ça. Écoutez. Il n'est pas temps de mourir. No time to die. Donc c'est le dernier, vous l'avez dit, James Bond qui sort aujourd'hui.
Il est très bon.
Il est très bon, oui. Retardé, évidemment, à cause du Covid, un an et demi. Et les producteurs de cinéma, mais également les exploitants de salles, comptent beaucoup sur ce nouveau James Bond pour essayer de relancer la fréquentation des salles de cinéma, parce qu'il y a moins de monde.
Compliqué.
Vous retournez beaucoup, vous, au cinéma ?
Au cinéma,
mais c'est pas à vous que je demande, c'est aux auditeurs.
C'est malin, ils ne peuvent pas répondre. Ils doivent être là dans la salle de bain. Mais Patrick, je dis oui, vous ne m'entendez pas, bien entendu.
Bon, oui, non, mais plus sérieusement, c'est vrai, Cécile, vous.
Non, assez peu. Mais nous, on est comme beaucoup de Français, on se lève très tôt le matin, donc c'est difficile d'être tardif le soir.
Moi, je suis retourné, ça commence à reprendre un petit peu, j'ai l'impression, la fréquentation, mais c'est pour moi pas encore ça.
Bon, allez, voilà.
Vous voulez m'inviter au cinéma ? L'un ou l'autre, tous les deux ?
Donc c'est moi qui paye, du coup, c'est ça.
Une petite séance de 16h, ça va vous rappeler des souvenirs, Benjamin, peut-être. Bon, plus sérieusement...
Allez, beaucoup moins héroïque, on va parler de l'école catholique aujourd'hui.
De l'église catholique, évidemment.
Avec la question du jour.
Oui, la question du jour, parce que nous revenons sur le rapport Sauvé hier. Donc, dans Sud Radio vous explique, on dira comment peut-on réparer dans l'église ce qui s'est passé. Et on pose cette question, est-ce qu'on doit s'ouvrir en priorité priorité à l'ordination, donc des hommes mariés, des laïcs, des femmes.
Aux femmes, voilà. Et pour l'instant, c'est plutôt aux hommes mariés et aux femmes, à 49%.
Bon, voilà. Et puis, autre question sur la politique, on y reviendra. Et Sophie Cluzel, à propos de politique, sera notre invitée. C'est la ministre en charge du handicap. Et il y a une grande bataille qui se profile demain à l'Assemblée nationale autour du handicap. Toute personne peut-elle et sera-t-elle prise en charge, toute personne en situation de handicap? C'était le grand défi des macronistes quand ils sont arrivés au pouvoir. Force est de constater que 4 ans après, c'est pas exactement ça. Et au passage, c'est aussi la journée nationale des aidants. Et pour les proches qui veulent aider leur famille, il y a un nouveau congé qui a été mis en place et ça ne fonctionne pas très bien. On lui posera la question tout à l'heure. Comment améliorer la situation? Au passage, d'ailleurs, on salue les aidants qui, évidemment, bien sûr, sont extrêmement disponible.
Restez avec nous, c'est le Grand Matin Sud Radio. Tout de suite, Sud Radio à votre service.
Sud Radio à votre service.
Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises.
Et oui, on est proche des entreprises avec Sud Radio et Didier Château est avec nous. Bonjour Didier Château.
Bonjour Cécile, bonjour Patrick.
Vous êtes président fondateur de Général des Services, qui est un réseau d'agences de services aux particuliers, donc aide aux personnes âgées, ménage, accompagnement, jardinage. Vous êtes un spécialiste justement de ce qu'on appelle la silver economy, qui est l'économie des seniors. La Fédération française de la franchise vous a décerné le ruban d'or franchise 2021, donc c'est bien de le signaler. D'abord parce que vous êtes un acteur méritant du secteur, mais aussi parce que vous avez un véritable engagement à l'endroit des seniors. C'est aussi une cible aujourd'hui qui est délaissé ou peu considéré?
En fait, ce sont un peu des invisibles, puisque j'allais dire assez durement, comme on parle dans le secteur, le vieux c'est toujours l'autre. Et en fait, on essaie toujours de cacher en fait, les gens fragiles. Vous parliez tout à l'heure de handicap, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une perte d'autonomie, notre société elle a du mal à reconnaître quand les gens sont fragiles et isolés. Et c'est un vrai problème.
Et absolument, il faut changer notre regard, forcément. Pour revenir au cœur de votre métier aussi, le service à la personne qui est en plein essor, hein, on le voit. Est-ce qu'on peut parler d'effet post-Covid?
Non mais clairement, le domicile, c'est devenu un lieu sûr, c'est un lieu de cocooning, c'est aussi un lieu de travail. Et aujourd'hui, les Français ont compris que le service à la personne pouvait être une réponse adaptée, professionnelle, sûre, pour entretenir son logement, faire garder ses enfants et aussi, bien sûr, s'occuper de ses parents âgés ou de proches porteurs de handicap.
Alors, la demande est forte, hein, puisque le pays vieillit. Pourtant, on observe une pénurie de main-d'œuvre dans le service à la personne. Comment l'expliquer? Est-ce que c'est un problème d'attractivité du métier?
C'est clairement un problème d'attractivité. On a du mal à communiquer sur en fait les valeurs, sur l'intérêt de porter son travail autour de l'autre, la proximité qu'on a de travailler à côté de chez soi, sur des horaires adaptés, sur un travail qui est relativement valorisant auprès des personnes. Et donc, c'est une méconnaissance de notre secteur pour beaucoup de salariés.
Oui, le 1er octobre, des aides à domicile ont bénéficié d'une hausse de salaire entre 13 et 15%, hein, je crois, mais destinée justement uniquement au secteur associatif. Qu'en est-il des 42% salariés qui travaillent dans le service public et privé?
C'est une vraie injustice. On l'a fait valoir au niveau du ministère. On est en pleine discussion. On a obtenu un tarif socle et on attend surtout des mesures concrètes en début d'année, ce qu'on appelle le forfait à 3 euros. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il est hors de question que nos entreprises laissent tomber les salariés. Effectivement, 40% des auxiliaires de vie. Nous ferons ce qu'il faut en 2022 pour être au rendez-vous.
En tout cas, merci beaucoup hein, Didier Château et merci à tous vos membres du personnel pour ce très joli métier qui mérite vraiment d'être reconnu. Vous êtes président fondateur de Général des Services, donc ce réseau d'agences de services aux particuliers. Je rappelle, l'aide aux personnes âgées, le ménage, l'accompagnement, le jardinage et ce qui permet à nos plus anciens d'éviter d'être isolés. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Il est 6h56.
Merci.
Sud Radio à votre service.
Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises.